Bienvenue à One Contre One, la balado musicale animée par deux gars qui passent trop de temps à mettre des photos de leur collection de vinyle sur les réseaux sociaux.
C'est pas faux. Je pense que je plaide coupable autant que toi. Mais ça fait pas de nous... c'est pas un signe distinctif de notre part, là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens... On salue les gens sur, par exemple, Passion Vinyle sur Facebook. Beaucoup de gens qui pourraient répondre à cette description-là.
Ouais, on va garder une certaine... On va rester anonyme.
On n'est pas les pires, je dirais. Mais pires ou meilleurs. On n'est pas les pires, on n'est pas les meilleurs.
Ouais, non, c'est ça, mais en tout cas, dans la dernière année, moi, ma collection a explosé, là, fait que c'est pour ça que je passe beaucoup de temps à regarder mes beaux objets, les caresser puis les prendre en photo.
C'est à ça que ça sert. Le monde est rendu virtuel, comme le disait Serge Fiori, mais il y a aussi une composante physique très importante. Et malheureusement, c'est pas ça qu'on fait ce soir, parce que ce soir, on produit du contenu complètement dématérialisé qui n'existe que sous le format d'un MP3 sur un serveur à quelque part qui vous arrive dans les oreilles pour discuter de deux chansons qui ont le même titre, mais qui ne sont pas la même chanson. C'est ça le concept de One Contre One. Et j'ai dit deux, mais déjà, là, ça nous prend un erratum pour commencer. Aujourd'hui, on a décidé de ne pas y aller par quatre chemins, puis d'y aller avec quatre chansons.
C'est notre premier One Contre One Contre One Contre One.
Parce qu'on n'était pas capable d'en choisir juste deux. C'est un titre.
Oui, puis des fois, on aime ça régler un dossier, one
ah,
shot.
Oui, comme on avait fait pour Lana Del Rey ou Crazy. Alors, ce soir... On parle de Allison. En ordre chronologique, je te les présente, Mathieu. En ordre chronologique, c'est Slow Dive. Non, excuse-moi, pardon. Elvis Costello. Fake. Après ça, il y a Pixies, Slow Dive et Soccer Mommy. Donc, on couvre trois décennies. Là.
Trois décennies, presque quatre. Oui, presque quatre. Écoute, des scènes différentes, des réalités différentes aussi pour le monde de la musique.
J'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va en dire. Est-ce qu'on plonge tout de suite ou tu avais des remarques préliminaires?
Non, je pense qu'on devrait y aller tout de suite parce qu'on en a quand même, comme je disais, on a large à couvrir. On va essayer d'y aller pas trop en détail non plus parce que pour... un artiste en particulier, j'en ressens beaucoup d'émotions. Et ça pourrait être un trop long épisode. Donc, on va essayer de s'auto-éditer là, live.
Parfait. Donc, si jamais on dépasse le 4 heures, je vais faire un petit travail d'édition puis je vais reprendre tes mots. On va essayer de ne pas en parler trop longtemps. On va essayer de ne pas faire ça trop long. Parfait.
Ça va m'en revenir en pleine face.
On va commencer par Elvis Costello ou... Plutôt, devrais-je dire, Declan Patrick McManus, de son vrai nom. Toi, je pense que tu connaissais Elvis Costello un peu.
C'est un nom connu. Ça me dit de quoi, en effet, mais je me suis rendu compte que j'avais jamais écouté aucun de ses albums au complet, que je ne connaissais même pas ses hits.
Ben, si tu avais commencé sa discographie tout de suite avec le premier album, My Aim Is True, bang, tu serais tombé sur Allison. Sur le premier album.
Oui, puis ça a été un succès quand même. Ça a été un single de l'album. Album sorti en 1977, pour vous donner un petit contexte quand même. Sur Wikipédia, j'en reviens toujours à Wikipédia, là, parce que j'aime ça avoir le nom des styles, parce que j'en apprends toujours. Et j'ai appris que le style pub rock existait. Oui. Pub comme dans les bars, la manière qu'on nomme les bars en Grande-Bretagne.
C'est quoi du pub rock?
Je sais pas.
Ah ouais?
J'ai même pas cliqué sur le lien. Je fais juste dire que ça existe. Fait qu'allez sur Wikipédia puis allez vous informer.
Parce que j'ai poussé un peu. Du pop rock, c'est auteur, compositeur, interprète un peu avec une certaine dimension. Là, je fais des guillemets, là, des gros guillemets. Une dimension un peu punk. Il y a beaucoup de pop rock, de l'attitude qui a été similaire avec le... le mouvement punk, en tout cas dans son incarnation britannique. Par exemple, un autre pub rocker, c'était Billy Bragg, qui était très impliqué dans les luttes travaillistes, syndicales, prolétaires, bref, avec une approche très dépouillée, très crue, des textes soignés, souvent revendicateurs, mais justement là, avec... je reviens à l'adjectif cru, tu sais, quelque chose qui sent, ça sent le DIY, là, si tu me prêtes l'expression.
Ah, ok, hein, c'est intéressant, j'avais pas vu ça comme ça, parce que le peu que je connais d'Elvis Costello, où il y a un peu d'humour, il y a aussi quand même un petit côté crooner, en fait, on le sent beaucoup dans la chanson à la scène en question. I know this world is killing you. Puis moi, ça, ben franchement, ça m'accroche pas du tout. J'ai toujours. Ben là, c'est drôle que tu me parles d'un style cru punk ou du moins post-punk. Par 77, je pense que les Sex Pistols n'existaient plus. Non, c'est pas vrai, c'est l'année de l'album des Sex Pistols. Attends un peu. C'est 76 ou 77 l'album des Sex Pistols?
J'aime pas ça. Je pense que c'est 77.
OK, fait qu'on était... Écoute, ils ont implosé dans la première année ou presque. Ça n'a pas été long qu'on était déjà dans le post-punk, là.
Alors, God Save the Queen, 1977, le single.
OK.
Nevermind the Bollocks, en 77 aussi. Fin 77, même. 28 octobre.
Ah, oh, ouais. Okay. Je sais pas pourquoi j'ai associé cet album-là à l'année 76. Mais en tout cas, c'est mon problème. Donc, non, c'est ça. Non, ça me surprend beaucoup parce que j'ai trouvé la chanson extrêmement propre. Une chante ballade typique des années 70.
Oui, puis c'est moi, excuse-moi, je t'interromps. Le côté crooner de Elvis Costello ne me parle pas du tout. Cependant, je me souviens, je l'ai découvert par, tu sais, son image, fin des années 70, d'un espèce de nerd avec des grosses lunettes, le complet, la Jazz Master.
Oui, je l'associe beaucoup avec une Jazz Master.
Tu sais, la Jazz Master, les mouvements de danse dégingandés. Tu sais, mettons Pump It Up, mettons I Don't Want to Go to Chelsea. Tu sais, le genre de musique énergique. Et je pensais qu'Allison, c'était de beaucoup postérieur à ça, puis c'était quand il était un peu assagi. Ben non, c'était le premier album. Je sais pas quoi penser de la carrière de Elvis Costello, parce qu'il y a vraiment des moments forts, énergique, puis les moments plus mous me laissent un peu froid.
Écoute, j'ai vraiment pas poussé plus que ça. La toune m'a vraiment turné off, là, ben franchement. Hey, on s'excuse pour les fans d'Elvis Costello. Ils existent, je le sais. Parce qu'il y a quand même une trentaine d'albums à son actif, ouais, depuis 77. Écoute, c'est un gars qui était quand même... prolifique et il a une carrière très enviable quand même. Là, on n'y enlèvera pas ce qu'il y a. Là. Sinon, non, j'ai pas. Absolument, je suis pas tombé dans un rabbit hole là, sur les plateformes là, pour en découvrir plus. Là. Ça a été le côté un petit peu plus challenge, mettons, de l'exercice, puis je me suis pas vraiment challengé plus qu'il, okay, faut. Parce que comme on vous a dit, on a quatre tonnes à parler.
Mais avant, je veux juste te dire, vu que t'es pas allé dans le rabbit hole des plateformes, t'es pas allé sur YouTube, t'as pas cherché Elvis Costello Allison, parce que si ça avait été le
oui,
cas...
Oui.
Ben en tout cas, si t'étais tombé dans le rabbit hole, t'aurais vu une version de Allison, cette chanson très douce, très mélancolique, jouée à Woodstock 99. L'après-midi, juste avant la soirée légendaire de Red Hot Chili Peppers.
C'est pas vrai.
Absolument. Et t'aurais vu aussi probablement le duo le plus, ouvrez les guillemets, Drink Your Own Kool-Aid de l'histoire. Elvis Costello et Sting qui parlent de Allison et Roxanne en spectacle.
Sting était à Woodstock?
Non, excuse-moi, c'est deux vidéos différentes.
OK, ouais, deux vidéos différentes. OK. Oh mon Dieu. Mais... Hey, ça, c'est une affaire. Je pense qu'on pourrait faire une série de podcasts juste sur les artistes qui étaient sur le line-up de Woodstock 99. Il t'a des affaires là, que tu te rappelais pas que ça existait, puis qui ont joué à des heures bizarres aussi. Là. Juste le fait que Kid Rock était vraiment sa grosse scène à une heure vraiment enviable, ça en dit long sur l'époque. Là.
Bon, amène-nous ailleurs, Mathieu, s'il te plaît.
Colin, allons-y des années 90, on saute les années 80, pour le meilleur et pour le pire. Mais là, on s'en va dans quelque chose de quand même intéressant. Puis c'est pas la première fois qu'on en parle, on va parler des Pixies.
Les Pixies, c'est ce groupe qui a la réputation, un peu comme le premier album de Velvet Underground, qu'il n'y a personne qui l'a acheté, mais tout le monde qui l'a acheté a fait son propre groupe de musique. Les Pixies, dans les années 90, sont réputés avoir inspiré tout le monde à se partir à un groupe de musique.
Oui, puis l'affaire, c'est qu'ils ne sont pas associés aux années 80, mais leurs deux premiers albums sont sortis à la fin des années 80.
C'est un... Ils ont mis la table.
Ils ont vraiment mis la table, puis quiconque a déjà lu une biographie de Kurt Cobain saura que ça a été ça a été justement, comme tu disais, là, le déclic qui s'est dit ben, je pourrais jouer de la guitare et écrire mes propres chansons.
Est-ce que les Pixies sont aux années 90 ce que Paul Sauvé est à la Révolution tranquille? Envoyez-nous vos commentaires. One à commercialcompte.one. Alors, Allison de Pixies, 90 pile. 1 minute 17.
Ça, c'est les tunes des Pixies que j'aime. C'est pas... Cette tune-là, c'est pas un hit. Quand tu regardes les setlists des tournées là, des dernières années, les tournées réunion, elle n'est pas là, là. Mais...
Elle n'est pas là?
En tout cas, pas les shows que j'ai écoutés lors de ma préparation parce que des fois, ça m'arrive, là, qu'on travaille à la maison, là, encore. Ben, je me porte des shows, là... Le channel officiel de Primavera, le festival à Barcelone, ils mettent un show complet là, sur leur channel. Puis il y avait celui de 2014, je pense, du groupe Frank Black, Black Francis. On sait pas c'est quoi son vrai nom, c'est la partie du mystère. Et c'est ça. Fait que je me suis bien gros gâté dans les dernières semaines. Et non, Allison n'y était pas, mais oui, 1 minute 17, sérieusement. Mettez ça dans votre playlist là, Spotify ou Apple Music. Là, puis, avoir le temps de cligner des yeux et ça va être réglé.
C'est drôle que tu parles des performances en spectacle sur YouTube auxquelles on a accès maintenant assez facilement parce que c'est une réflexion que je me passais en regardant des images d'archives de Allison. La musique des années 1990, on n'a pas beaucoup d'archives de bonne qualité. T'sais. Les spectacles qui avaient été captés qui peuvent avoir été versés sur YouTube, c'est par exemple des VHS, des captations télé qui sont hyper compressées, le son est tout croche, alors que tu fais le bon en 2010, tu sais, dans les années 2010, les prestations, c'est du professionnel, c'est tout le temps du travail de caméra. Mettons, l'après-midi, un setlist d'une demi-heure en après-midi à Glastonbury va être filmé avec une super haute qualité. Ça va être disponible pour n'importe quel, entre guillemets, petit band. Là. On s'entend que si t'es à Glastonbury en après-midi, t'es quand même un gros band. Mais c'est quand même disponible pour toi et moi pour le regarder instantanément. Là. C'était pas ça en 90 ou au début des années 2000.
Ah non, c'est ça. Puis tu sais, les performances live des Pixies, disons, de la première version des Pixies, là, avant que le groupe arrête d'exister dans les années 90, après le quatrième album, ben le plus professionnel qu'on a, c'est quand ils faisaient des talk shows, mettons. Là,
ouais.
Là, ça sonne quand même pas pire, mais oui, c'est très compressé. Là, c'est vraiment l'époque, là. Fait que oui, c'est ça. Si on veut voir des Pixies live, il faut y aller sur place et les voir ou justement là, voir la version plus bedonnant et avec moins de cheveux.
Qui ressemble à Hank dans Breaking Bad.
Hey, c'est vrai, hein? Colin, c'est difficile de pas le voir une fois que tu as fait l'association.
Mais c'est drôle parce que tu sais, on rira pas quand même de l'aspect physique de Black Francis parce que je regardais un vidéo de 2014 des Pixies. Puis quand il y a des quand la caméra pointe la foule, c'est mettons c'est beaucoup de en anglais receding hairlines.
Ouais, des crânes qui commencent à se dégarnir tranquillement hein?
Beaucoup de crânes dégarnis, beaucoup de lunettes, pas beaucoup de flow là, pas beaucoup de jeunes.
Non, hein, puis c'est pas nécessairement, tu sais, la manière qu'ils s'habillent, ces gens-là, tu vois qu'ils, samedi matin, ils sont pas au CrossFit, là. C'est, non, ben là, c'est on porte bien des gros des jugements, mais moi, le samedi matin, je suis pas au CrossFit non plus, là. Mais, j'ai tous mes cheveux, par contre, mais, ben, c'est un peu notre crowd, mais plus vieux, quand même, là, on voit que...
Ouais.
On voit que c'est les survivants du grunge là, qui continuent à suivre le groupe.
Continuent à survivre.
Ouais, c'est ça. Mais je dois faire une autre confession. On est Vas-y. Là pour ça. Je connais quand même les Pixies, mais je connais pas tout de eux autres. J'y retourne pas si souvent que ça. Est-ce que ça fait de moi un mélomane cancellé?
Non. Il n'y a pas d'obligation d'écouter les Pixies. Cependant, quand tu y reviens, tu dois constater que c'est tellement bien écrit, tellement bien composé comme musique pop. C'est, pour reprendre l'adjectif galvaudé, c'est extrêmement efficace.
Oui. Ah oui, non, carrément. C'est comme tu disais, ça a mis la table pour l'arrivée de toute cette vague de rock-là qui allait nous arriver de Seattle puis de la côte ouest. Ironiquement, c'est un groupe de Boston, mais...
De Boston?
Oui. Ben, c'est drôle, hein? Wow. Pareil, parce qu'on associe les années 80, début des années 90 beaucoup avec Seattle.
Je les aurais associés à la Californie.
Oui, puis la Californie, drôle, entre hein? autres, mettons, avec les Stone Temple Pilots, par exemple, qui viennent ouais. en tête comme ça. Par contre, les deux des groupes les plus influents, disons, c'est les Pixies et Dinosaur Jr., qui sont du Massachusetts, eux autres aussi.
Oui. Eh bien, hey, c'est vrai. Dinosaur Jr., ça aussi, c'est bon.
Ouais, un peu différent, par contre, mais on y viendra très, très, très rapidement à ce style-là, plus guitaristique. Ben moi, dans mes notes, là, pour la chanson Allison, j'ai marqué que je l'adorais, 1 minute 17, super efficace de rock pré-grunge. Troisième album sur quatre, c'est pas un de ceux-là produit par Steve Albini, par contre. J'aurais bien aimé qu'on parle du bon Steve, mais ça sera pas ce soir.
Ah. On aura une alerte Steve Albini.
Hey, sinon, écoute, non, les Pixies, je vais toujours continuer à y retourner une fois de temps en temps quand même si je suis pas le plus grand fan, parce que l'importance le groupe a pour tout ce que j'ai écouté par la suite. Et on en a parlé dans notre épisode, Suzanne, quand on a discuté de Weezer. On a parlé des Pixies quand on a parlé de Weezer.
C'est sûr. Parfait. Ben, là, tu viens de prononcer le mot Weezer.
Donc là.
Et qui dit Weezer dit 1994. Qui dit 1994 dit Slow Dive.
92.
Non, Slow Dive sous Blacky, c'est 94. Un peu, je vérifie. Souvlaki a été lancé le 1er juin 1993.
Bon, ben, nous voilà éduqués.
Toi, c'est ton... c'est ton groupe, Slowdive.
C'est un de ceux-là, en effet. La Sainte Trinité du shoegaze qui nous est venue de l'Angleterre au début des années 90... Il y a bien sûr My Bloody Valentine, Ride et Slow Dive. Le Slow Dive était un peu plus le petit dernier là, arrivé sur Creation Records, justement au début des années 90. Bien sûr, comme tout le monde, j'ai découvert ce groupe-là et ce style-là, ce mouvement-là, beaucoup sur le tard. Je l'ai peut-être déjà mentionné, mais au moment que Souvlaki... au moment qui a été lancé, le shoegaze dans les médias anglais était devenu synonyme d'insulte. Qu'un groupe
c'était devenu?
Oui, c'était déjà un style que les médias britanniques avaient déjà décidé. En 93, là, c'était passé date. C'était fini.
Ouais.
Donc, Slowdive n'a jamais eu connu de très grands succès commercial ni d'estime jusqu'au début des années 2000.
Est-ce qu'il jouait encore à ce moment-là? Ou
Non, le groupe a arrêté d'exister après l'album qui s'appelle Pygmalion.
Fait qu'un succès souvenir, un succès posthume.
Un succès posthume.
Ben,
succès...
Ils se sont reformés après.
Oui, c'est ça. Je les ai vus d'ailleurs en show en 2014. Ils étaient passés par Montréal. Ce fut une très belle soirée. Touliette est...
C'est vraiment triste. Ben, pas ta très belle soirée. Là. Je suis content que tu aies eu une très belle soirée. Mais c'est vraiment triste ce genre de succès a posteriori qui se fait. Parce qu'après ça, ils reprennent ces groupes-là. Tu les vois essayer de reprendre le flambeau du succès d'estime qu'ils ont connu, mais ça marche pas autant. Évidemment, ils n'ont pas les moyens qu'ils auraient pu avoir à l'époque pour réaliser leurs ambitions. Là.
Oui, non, c'est vrai, mais ça doit... Tu sais, c'est ça, à l'époque, il y a un documentaire que Pitchfork a fait, c'est disponible sur le channel YouTube de Pitchfork là, qui raconte l'histoire de Slow Dive. Là, fait que je répète un peu ce que j'ai écouté. Là, je pense que c'est sorti en 2015, si je me rappelle bien. C'était avant l'album de retour qu'ils ont sorti en 2017, qui a été mon album de l'année d'ailleurs, en 2017, je tiens à le dire. C'est pour vous dire comment j'aime Slow Dive. Et la chanson Allison ouvre l'album Souvlaki. Et c'est l'album pour lequel ils sont le plus connus, je dirais. Just for a Day, beaucoup moins. Il y a quand même des bonnes tunes dessus. Il est bon aussi. Souvlaki, il est plus concis. Il a un son absolument incroyable. Ah, c'est
les harmonies de ça.
C'est l'attaque à trois guitares, mais sans des gros murs de distorsion. On mentionnait brièvement Don Azure Jr. tantôt, là, qui quand même grungy, shoegazy. My Bloody Valentine, qui était beaucoup plus dans la Big Muff. Eux autres, ils étaient vraiment dans la Dream Pop, plus que ouais, d'autres choses. Ça a été une influence sur ma vie de musicien, cet album-là, vraiment. Là, je me suis rendu compte comment je fais pour vivre sans une pédale de reverb. Ça a été vraiment une conversion. La chanson Allison en tant que telle, là, c'est vraiment... ça ouvre avec des grosses guitares, puis t'as une ligne de basse qui est très de Cure en arrière, qui ramasse tout ça. Je sais pas si t'as remarqué, ouais, parce que ça y va un peu partout, mais là, t'as une mélodie.
C'est facile de se perdre.
C'est très facile de se perdre, mais la basse, elle coupe bien là, tu sais, dans le mix. Le vocal, toujours un peu en arrière, c'est sûr, parce que c'est la raison pourquoi le style existe. Là. C'est chanté. C'est grosso modo, pour ceux qui découvrent le shoegaze ce soir, c'est des chansons pop, mais jouées avec beaucoup, beaucoup de distorsion et ou de reverb, et où la voix n'est pas très importante.
Il n'y a pas nécessairement de paroles dans, par exemple, My Bloody Valentine.
Ouais, mais c'est rare que j'entende quelqu'un dire « Ah ouais, quand j'ai entendu Kevin Shields là, dans le refrain de Only Shallow, là, j'ai su que j'allais y arriver. »
Se faire tatouer les paroles d'une chanson de My Bloody Valentine, ça serait quelque chose.
Ça serait quand même quelque chose. Ça soulèverait beaucoup de questions parce que, d'un, le monde ne connaît pas tout ça. De deux, même ceux qui connaissent ça, ça savent pas de quoi ça parle.
Mais c'est vraiment, tu comparais justement à My Bloody Valentine. Puis ça, c'est un volet beaucoup plus accessible du shoegaze. justement, sans perdre de toute l'originalité du style en termes de texture musicale. Je pense que c'est vraiment un très bon compromis entre une dream pop, justement, très... très harmonique, très classique, et un son de guitare complètement hallucinant.
Oui, c'est très bien résumé. Il était beaucoup plus, c'est ça, il était beaucoup plus dream pop que même Ride. Ride aussi était quand même, il y avait un côté quasiment grungy là, sur les premiers albums. Maintenant, ils ont décidé d'essayer de faire de la Britpop, puis ça a donné des albums qui sont absolument embarrassants. le dernier, il est pas écoutable. Écoute pas ça.
OK.
Mais le premier Ride, par exemple, Oh Boy Nowhere, et c'est quelque chose. C'est quelque chose. Je tiens à le dire.
On mettra un lien.
Je sais pas si j'oublie d'autres groupes. La raison pourquoi ça s'appelle Shoegaze, en passant, là, je vais revenir à ce que je disais, comme de quoi le style est devenu une insulte. C'est que c'était des musiciens un peu nerdy qui jouaient de la musique très très forte avec beaucoup de pédales de guitare. Puis pour changer ces sons de pédales, il faut que tu te regardes les pieds pour savoir sur quoi tu pèses. Puis souvent, ben c'était ça, c'était des gars, des filles un peu gênées, fait que ça relevait pas la tête. Fait que ça, c'est d'où le nom Shoegaze. Et dans la presse britannique, ça a été nommé par un journaliste que je n'ai pas le nom. La scène qui se célèbre en elle-même. Parce que finalement, ça n'a pas été des gros succès commerciaux. Puis tous les groupes jouaient ensemble entre eux autres. Puis il y en avait beaucoup qui étaient justement sur le label Creation.
Bon, OK. La scène qui célèbre elle-même, tu sais, c'est reproché à des gens qui ont une affinité artistique ensemble, de collaborer ensemble. Je trouve que c'est un peu petit de la part de ces journalistes-là de reprocher ça, de reprocher ces interactions créatives-là. C'est sûr que, bon, ça fait pas les spectacles les plus enlevants. Et je pense que on comprendra tous pourquoi. T'sais. Mais la presse britannique a cette aura de perfidie autour d'elle, la presse britannique musicale, qui ne cessera jamais de m'étonner.
Oui, en effet, c'est je pense que si tu viens pas de là, tu peux pas comprendre. Tu sais, j'ai essayé de comprendre moi-même dans mes années Oasis, les années 90, là, de quoi qu'ils parlent la presse britannique. Puis, en gros, de ce que j'ai compris, puis envoyez-moi un courriel si j'ai tort, c'est que quand ils décident que quelqu'un ou un style marche, ça va marcher, puis ça va faire l'unanimité. Tu n'auras pas un seul magazine qui va dévier de la track, là. Au début des 2000, ils ont décidé que c'était The Killers, le band. Ben, ce band-là est encore célébré dans la presse britannique. Mais, ouais, c'est fou raide. Si tu lis le NME, là, c'est comme si Hot Fuzz, il était sorti la semaine passée, là.
Ben, pour vrai, ça n'a pas pris
une... Non, il y a ça. Ça sera, on essaiera d'en faire cet épisode. Mais à cette époque-là, je ne sais pas pourquoi la presse britannique a décidé qu'en 93, il y en avait soupé du shoegaze. Donc, il était déjà prêt au Britpop.
Hey, mais de quoi il jouait? Mettons, là, si on se fait un intermède là, pour... on fait un mini-épisode de notre autre podcast, qui est celui où on parle de pédales de guitare. Sur quoi il pesait à l'époque? T'sais, qu'est-ce qu'il y avait? T'sais, il y avait les vieilles Big Muff, le vieux stock d'électro-monnaie, mais t'sais, les Boss, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait pas toutes les boutiques de maintenant.
J'avais checké ça il y a très, 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 très longtemps quand je commençais à m'acheter moi-même des pédales de guitare. Là. Je pense que c'est beaucoup du Boss, en effet, puis du Electro-Harmonix, parce que... Puis, tu sais, c'était pas des gens riches, là. Fait que, tu sais, puis il n'y avait pas d'Internet. Tu peux pas commander un Reverb fait par un gars dans un sous-sol en Finlande, là.
Non,
t'avais
c'est ça.
T'avais pas de ça, là. Puis, j'ai regardé sur le channel YouTube encore de Pitchfork. Il y a live au Pitchfork Festival. T'as leur performance de leur grand, grand hit, ma tune préférée d'eux autres, When the Sun Hits. Puis, tu vois un peu le pedalboard, là, du Bo Neel. Puis, t'as regardé ça, là, c'est du MXR, tu sais, des trucs que t'achètes chez Archambault, là.
Ouais.
Fait que, je pense que c'est la quête instagrammable de la pédale faite par un gars en Ohio là, qui habite encore chez ses parents, là, mais qui est trop...
Qui en a juste 41.
Numéroté à la main, ouais. Tu sais, dans ce temps-là, ça n'existait pas. Ils ont juste appris à faire ce qu'il y avait avec.
Ouais.
Fait que moi, je te...
C'est un beau message, je pense, à envoyer à la jeunesse québécoise et internationale ce soir.
Ouais, et pour ceux qui aiment les pédales de guitare, il y a le gars qui a la compagnie GHS, qui a son propre channel YouTube, qui est tout un rabbit hole de... Il y a moyen de perdre des soirées complètes sans s'en rendre compte, là, parce que ce gars-là a une collection. Ça n'a aucun sens, sa collection, et il va célébrer chaque maudite pédale, que ce soit la pédale à 30$ qu'Amazon ont sorti parce qu'ils ont acheté une chip d'une compagnie de Chine, puis qu'ils ont leur pédale Basics, ou justement la pédale d'un gars dans un sous-sol en Suède. Lui, il aime tout, il les essaye toutes, puis il les vend toutes, il les vante toutes. Il est incroyable.
Salutations à Josh. Si jamais tu veux nous envoyer une boîte remplie de n'importe quoi, on est preneur.
Oui, je serais bien preneur de ton bonsaï en passant, Josh.
Pour vrai, attends, toi, t'achèterais un bonsaï.
Hey, j'essaie. J'ai eu une couple de hits dernièrement, là. Puis.
Ça te prend une tube screamer.
Je pense que ça me prend une tube screamer.
Wow, man. OK, je pense que c'est gros.
Ça, je pense que c'est ce que je vais appeler ma pédale de papa.
Tu veux une strat? Ouais, pour vrai, t'as ce qu'il faut. Ça va juste te prendre un Blues Junior, une strat, puis un tube screamer.
Ouais. Hey, c'est vraiment le fun. Merci tout le monde. Revenez-nous la semaine prochaine pour le boss contre le MXR ou Strymon contre Line 6. Retour au programme principal. Hey,
on passait à Soccer Mommy.
Je suis vraiment excité de parler de la prochaine chanson Allison par la chanteuse et auteur-compositeur. Autrice, compositrice, interprète?
Oui.
OK. Pour pas être cancellé. Soccer Mommy. C'est pas son vrai nom, là. C'est Sophie Allison.
Son vrai nom,
Sophie,
c'est...
Sophie Allison!
Allison, c'est elle!
Mais Colin,
on a trouvé c'est
qui, Allison,
c'était qui
sur les quatre tounes? Depuis ce temps-là, c'est la c'est
non,
notre amie Sophie.
Sur celle des Pixies. Sur celle des Pixies, c'était pour Mose Allison, qui était un chanteur de jazz, proto-blues, boogie-woogie. On en écoute un extrait à l'instant. Because your mind is on vacation and your mouth is working overtime. You quoting figures and dropping names. You telling stories about the dames. Alors, on est de retour avec Soccer Mommy, Mathieu.
Oui, Soccer Mommy, pour ceux qui ne savent pas, bon, elle est au début de sa vingtaine. Elle est née, je pense, en 97, une affaire de même.
Ce qui ne nous rajeunit pas.
Non. encore très jeune. Elle a, en ce moment, deux albums complets à son actif. Le dernier, Color Theory, sorti en février 2020. J'ai une belle version chez nous, achetée lors du Bandcamp Friday. En plus, le vinyle est clair. Il est super beau.
Oh, wow.
Oui, et un autre album avant qui s'appelait Clean. Par contre, la chanson Allison n'est pas sur ces albums-là. Elle est sur une compilation qui s'appelle Collection. Parce que comme toutes les jeunes demoiselles et demoiseaux de ce monde, bien sûr, elle a surtout à l'âge qu'elle a, qui est pas mal plus jeune que nous autres.
Elle a toutes les trois autres chansons dont on a parlé sont plus jeunes qu'elle. Sont plus vieilles qu'elle, pardon.
Ouais.
Les trois autres chansons dont on a parlé ce soir sont plus vieilles.
Au moment de sa naissance, les trois chansons existaient. Donc, comme
plusieurs jeunes personnes.
Comme jeune personne de son âge, ben, elle a commencé à créer de la musique sur un laptop dans sa chambre, d'où le nom du style Bedroom Pop.
Oui.
Et elle a mis beaucoup de chansons sur Bandcamp, justement. Puis ben, ça a marché quand même, il y a eu une bonne traction. Puis justement, là, la collection de singles là, qu'elle a sorti avant le premier album, ben, ça s'est retrouvé justement sur Collection.
ça me fait penser à Joni Mitchell.
Oh, c'est pas rien.
C'est pas rien. L'utilisation des... tout d'abord, j'ai essayé de la jouer. J'ai pris ma guitare l'autre fois. Je me suis dit, je vais essayer de la jouer. C'est un accordage ouvert. Donc, elle est en... Je pense qu'elle est en ré. Tu sais, un accordage de ré ouvert, là, open D. Je suis pas sûr. C'est quelque chose comme ça.
Ça se pourrait parce que j'ai dans la préparation, je suis tombé sur le channel YouTube officiel de Audio Tree, qui est un peu comme un KEXP, où ils reçoivent des artistes live là, dans leur studio.
C'est ça.
Puis en regardant ce que les accords qu'elle faisait, on voyait que c'était pas le standard qu'on connaît quand on apprend à jouer de la guitare à la première leçon. Là.
Non, puis c'est un peu l'effet que ça donne, justement, un accordage ouvert. Alors, pour tous les guitaristes et non-guitaristes qui nous écoutent ce soir, les accordages ouverts sont une façon d'accorder une guitare qui n'est pas mi, la, ré, sol, si, mi, comme d'habitude, mais plutôt d'autres notes. Souvent, ce que ça peut faire, c'est que ça peut... premièrement, ça fait que les accords ne sont plus les mêmes, les notes ne sont plus au même endroit sur le manche. Ça a un effet assez spécial sur le cerveau, à savoir que la guitare devient un instrument, à moins de s'y être habitué, un instrument tout nouveau. Donc, on a besoin de réapprendre à en jouer. Les accords ont tous une forme différente. Donc, quelqu'un qui, par exemple, peut avoir mis des années à apprendre à jouer de la guitare va avoir une certaine mémoire musculaire de certaines formes d'accords, où les notes sont. Mais avec un accordage ouvert, tout ça, ça prend le bord. Et des accords différents qui pourraient être difficiles à jouer avec un accordage normal deviennent très faciles. Donc, ça change beaucoup le rapport de la personne qui compose, du ou de la guitariste, avec sa chanson. Et ça s'entend dans Allison the Soccer Mommy, ça s'entend aussi dans Joni Mitchell, comme je le disais.
Oui, puis ça donne justement avec la production, avec ben du reverb, ça donne un côté vraiment un peu plus aérien. Je trouve que c'est une balade, mais je trouve que la chanson elle vit bien, elle est enveloppante malgré, tu sais, puis c'est quasiment réconfortant. Puis tu sais, nous, on est quand même pas jeunes, elle a écrit ça à l'adolescence, tu sais, on vit pas les mêmes affaires, mais tu sais, ça reste que... On n'est peut-être pas au même moment dans notre vie, là, elle et nous, mais ça nous rappelle un peu nous comment on se sentait dans ce temps-là. Tu sais, oui, un peu de nostalgie. Puis je disais avec un de mes amis, en 2020, là, quand l'album Color Theory est sorti, on faisait la joke que c'était le meilleur album des années 90 sorti en 2020. Parce qu'il y a quand même un côté un peu pop 90, là. Dans la musique de Sophie Arleson.
Tout à fait. Quelque chose de fortement inspiré. D'ailleurs, elle cite Slow Dive comme influence.
Ouais, j'avais vu ça aussi. Là, je pense justement probablement l'usage du reverb là, aussi. Là. Puis, c'est sûr que là, on parle d'une artiste solo là, qui a commencé à enregistrer solo sur un laptop dans sa chambre à l'adolescence. Mais quand elle joue avec un groupe là, en tournée, là, elle est quand même bien entourée. Là. C'est quand même un son complet aussi. Là. C'est, ça n'en demeure pas moins, c'est un artiste rock, d'après moi, là, à la base.
Oui, en effet.
Donc, une belle découverte pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on s'entend que c'est pas un nom encore super, super connu, mais je la mettrais quand même dans la même lignée des Phoebe Bridgers un peu, là.
Je pense qu'il y a une certaine communauté d'esprit. Je ne sais pas si c'est une communauté réelle, mais je pense qu'ils peuvent être classés assez proches, mettons, sur une étagère de vinyle.
Ouais, en effet, tu sais. Puis souvent, tu sais, quand t'arrives pour acheter le vinyle sur Bandcamp, ben, tu sais, tu vois en bas, tu sais, les personnes qui aiment ça ont aussi acheté, ben, Phoebe Bridgers, Snail Mail, Julian Baker, Lucy Dacus. Et autres que là, qui m'en viennent pas dans la tête, là, mais tu sais, ça reste que c'est quand même des jeunes femmes qui font de la musique très intéressante et très inspirante ces temps-ci, et c'est tant mieux.
Absolument. Ça fait plusieurs fois qu'on nomme Bandcamp ce soir, et je veux souligner à quel point Bandcamp ne commandite évidemment pas ce balado, mais en tant que qu'amateur de musique et en tant que musicien, je me permets de souligner à quel point Bandcamp, c'est une plateforme extrêmement intéressante et extrêmement... Je veux pas dire intéressante, extrêmement...
Importante.
Importante pour la communauté musicale, pour dépasser un peu les monopoles de Spotify, Apple Music, même les expériences de Tidal, pour passer au-delà de Amazon, au-delà de YouTube, au-delà de Google, puis d'aller essayer de développer un lien avec entre les musiciens et les amateurs. Je ne saurais trop vous recommander d'utiliser Bandcamp et d'envoyer vos d'envoyer votre attention aux artistes, d'envoyer votre argent aux artistes et de télécharger des MP3, d'acheter des vinyles pour avoir un appui plus tangible à ces artistes-là qui font d'excellent travail.
J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. C'est exactement ce que j'en pense. Personnellement, je ne vais pas dire au monde comment vivre leur vie, mais j'ai acheté à tous les Bandcamp Friday, je pense, depuis que ça a commencé en 2020. Pour ceux qui ne le savent pas, un vendredi par mois, Bandcamp ne prend pas du tout sa cote sur chaque achat. 100% de l'argent va à l'artiste.
Et de toute façon, même si vous ratez le vendredi, la cote est relativement minime.
La cote n'est pas grosse. Puis
le modèle d'affaires de Bandcamp est quand même aussi appréciable, là, à savoir que ils veulent faire de l'argent. Ils sont pas... Ils n'essaient pas de se faire acheter par une grosse firme, à moins que je me trompe.
J'ai rien vu en ce sens, mais oui, écoutez, achetez votre musique via Bandcamp, ou du moins, utilisez leur algorithme, parce que si vous faites une recherche pour un groupe de black metal américain, ben après ça, il va vous en pousser un autre qui va être aussi bon, puis un autre qui va être aussi bon. L'algorithme est aussi vraiment bien fait, là, puis... Contrairement à YouTube, il ne vous amènera pas sur un channel néo-nazi. Là.
Ce qui est quand même aussi non négligeable. Alors, sur cette déclaration d'amour aux quatre artistes, ben, moi personnellement, c'est quatre bonnes chansons que j'aime. J'aime pas tout ce qu'Elvis Costello a fait, mais Alison, je l'aime. J'aime moins son style crooner, mais j'aime Alison. Pixies, je les aime d'amour. Slow Dive, c'est quelque chose auquel je reviens plus souvent qu'autrement. J'ai aussi acheté récemment Slow Dive en vinyle, leur album de 2014. Et Soccer Mommy, c'est vraiment une excellente artiste à découvrir et j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous amener. Donc, c'est quatre très forte à Alison ce soir, je trouve.
Oui, on s'est pas vraiment mis en danger à explorer un style de musique qu'on connaissait pas beaucoup, mais je pense qu'on a, on a quand même célébré la musique sur 3-4 décennies différentes, dans des mondes différents. Et ben c'est ça. Le but de ce podcast-là, c'est de célébrer la musique et les artistes qui la produisent.
En 2021, on n'a pas besoin de confrontation, là, ou de gens qui se crient après, là. On a juste besoin de recommandations musicales et de bons souvenirs.
Se crier après, c'est tellement 2020. Non?
C'est tellement 2020. Si vous criez après, mon Dieu, vous êtes dépassé. C'est ringard.
Donc, mais si vous voulez crier que vous écoutez One Contra One, que vous aimez ça.
L'URL est facile à crier.
Ben oui. Ben oui, ben oui. En plus, on est sur les Facebook, un endroit où personne crie nulle part jamais. Et Twitter, où tout le monde est super civilisé.
Et si vous voulez crier dans notre boîte de courriel, c'est one à commercial contre point one. Ça nous a fait plaisir de vous partager ces quatre vignettes sur quatre chansons qui s'appellent Alison. À bientôt, Mathieu.
À bientôt, François.